en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Alors nous avions convenu du sujet, la question de la différence entre sociale et sociétale. Et puis, à cet égard, les choses évoluent absolument sans arrêt, donc on ne peut qu'essayer de regarder, disons, les définitions ou d'analyser autant présent. Je ne prétends pas faire autre chose. Donc, c'est seulement depuis quelques années que nous voyons... tout d'un coup, ou presque, arriver le sociétal derrière le social, et peut-être même en opposition à lui. Alors, évidemment, on peut... je crois qu'il faut laisser les grammairiens préciser avec plus de talent que moi, mais en tout cas, préciser les choses, on peut dire qu'on ne peut pas dériver un adjectif en « tal » d'un substantif en « t ». On ne peut pas identital, propriétal, unital, universital, c'est pas concevable. Ceci a été d'ailleurs bien décrit par le sociologue François Héran dans la revue française de sociologie, mais les grammairiens aussi évidemment ont leur mot à dire et de façon beaucoup plus précise. On voit bien que les adjectifs en tal, donc, sont, jamais les adjectifs en tal ne sont issus de substantifs en t, mais c'est le contraire qui est vrai, c'est-à-dire que fatal, fatalité, natal, natalité, cela coule de source, ou vital, vitalité. Donc il y a là un néologisme qui, au fond, ne provient que du prestige de l'Amérique, même si, en anglais ou en américain, la structure du langage ne le permet pas davantage, puisque l'adjectif en tal ne provient pas non plus d'un substantif anti. Donc il y a une nouvelle terminologie dont on peut se demander si c'est seulement un effet de mode qui enjoint de compliquer les mots pour euphémiser le discours. Ça arrive parfois dans notre société, ou bien est-ce que ce serait l'indice d'une véritable transformation des significations et en même temps d'une sorte de transformation des idées, d'une certaine manière, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Alors, il faut préciser tout d'abord qu'on utilise le terme « social » pour tout ce qui relève de l'organisation, de la distribution, de la production. On le lie clairement à l'économie, on le lie aux biens quantifiables et monnayables, et à leur répartition. L'adjectif social s'est développé au XIXe siècle, et pour des raisons bien précises que nous connaissons tous, avec ce qu'on a appelé la question sociale, dont l'analyste précurseur est probablement le docteur Villermé, dont notre ami André Vacheron a parlé la semaine dernière, qui étudiait la vie des enfants pauvres au détour des années 1830. Il s'agissait donc bien ici, dès le début, des conditions de vie... qui était lié à la situation économique et aux lois qui régissent le travail. Tandis que le terme sociétal, qui est tout nouveau venu, qui est donc un néologisme, en tout cas pour l'instant, est employé pour désigner ce qui a trait au comportement de l'individu et à l'évolution des mœurs. C'est-à-dire qu'il s'agit non plus de la redistribution des biens, mais il s'agit des normes, dans tous les sens du terme. Ça concerne la famille, le couple, la liberté individuelle, la vie privée, et même... Ça en découle le sens de la vie, et non plus le niveau de vie, le confort, la sécurité, etc. Autrement dit, et c'est là-dessus que je voudrais vous entretenir, le social touche à la vie collective, à la vie commune, le sociétal touche davantage à la vie privée. Et je pense qu'il y a là un point très intéressant. Alors je propose de ce phénomène inédit, d'abord une lecture politique rapide, parce qu'au fond, c'est bon, d'abord, c'est pas ça qui m'intéresse le plus, et ensuite une lecture, philosophique. Alors, premièrement, d'un point de vue simplement politique, c'est important, même si ce néologisme sociétal, donc qui vient d'Amérique, n'a aucune justification linguistique, et finalement trahit la pensée plus qu'elle ne l'éclaircit, pour autant, ce n'est pas un hasard si ce mot se voit de plus en plus employé. Cet emploi correspond à un déplacement des idées au sein de la gauche, je crois. Il est intéressant de se demander pourquoi la gauche semble peu à peu ancrer son programme d'action dans les questions de mœurs, de mœurs, au détriment des questions de redistribution économique. Autrement dit, dans le sociétal au détriment du social. Nous avons, je prends cet exemple, mais on pourrait en trouver d'autres, un rapport du think tank Terra Nova, publié en 2011, qui peut éclairer cette question. Le rapport dit ceci, je ne cite pas entre guillemets, mais le rapport dit ceci, la gauche a perdu la classe ouvrière qui constituait son électorat. Ceci n'est pas un scoop, c'est un simple constat. J'ai lu encore hier ou avant-hier dans la presse que Michéa et Julliard venaient de publier un bouquin là-dessus, sur le fait que la gauche a perdu le peuple, pour reprendre le terme, disons, d'Aristophane. On peut dire que la classe ouvrière, c'est ce que dit Terra Nova, la classe ouvrière n'est plus en phase avec les valeurs de la gauche, je reprends le texte ici, entre guillemets, n'est plus en phase avec les valeurs de la gauche. Si la gauche voulait rester proche du peuple, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse ? Il faudrait qu'elle rompe avec certaines valeurs de gauche. Et selon Terra Nova, la gauche était en phase avec la classe ouvrière tant qu'elle s'occupait du domaine socio-économique et qu'elle restait assez conservatrice sur le plan des mœurs. Mais depuis l'époque de 68, on peut dater à peu près de cette époque, même si bien sûr ça reste discutable, l'apparition de toutes les inquiétudes sociétales, depuis l'époque de 68, l'évolution vers le libéralisme des mœurs, à laquelle s'ajoute aujourd'hui l'accueil à l'islam et aux immigrés, le mariage gay, etc., tout ça mélangé dans une seule casserole, évidemment, c'est plus complexe, mais vous voyez ce que je veux dire. Tout cela repousse la classe ouvrière, qui par ailleurs, évidemment, subit la montée du chômage et la précarisation. Par conséquent, devant une classe ouvrière qui se révèle conservatrice, au fond, la gauche doit chercher son électorat ailleurs. Je pense que c'est ce que nous allons trouver, je ne l'ai pas encore lu, bien sûr, mais ce que nous allons trouver dans le livre de Michéa Julliard. Alors, la gauche va chercher son électorat à la fois dans les fonctionnaires moyens, qui sont assez nombreux en France, et puis, bien sûr, dans l'électorat bobo, mais l'électorat bobo est assez mince pour finir, ça va pas très loin, ça fait pas un électorat. Autrement dit, le développement de la préoccupation dite « sociétale » répondrait à une deuxième phase de ce qu'on peut appeler le programme d'émancipation des Lumières, né au XVIIIe siècle. Après avoir travaillé, avoir libéré le travailleur, pardon, de l'exploitation et de la misère économique, la pensée dite progressiste, d'une manière générale, issue de la saison révolutionnaire, s'emploie à libérer l'individu, mettez-le entre guillemets si ça vous plaît ou pas, à libérer l'individu de la famille traditionnelle, des carcans, des tabous que vous pouvez mettre si vous voulez entre guillemets, des tabous multiples qui concernent les mœurs. Donc ça serait une sorte d'échelon supplémentaire. Je dis bien ça serait. C'est une proposition. Et rencontrant ici un problème de persuasion, eh bien la gauche serait obligée de changer d'électorat. Ou devrait changer d'électorat, ce qu'évidemment elle n'arrive pas à faire, parce que c'est pas facile de changer d'électorat. Alors, nous voyons une partie de la gauche, et notamment une partie de l'extrême gauche, c'est tout à fait patent si on regarde les livres, les textes, le net, etc., une grosse partie de l'extrême gauche qui s'indigne de voir les questions sociétales étouffer les questions sociales et les reléguer au second rang. Et bien sûr, il est plus facile, nous le savons tous depuis 2 ou 3 ans, nous voyons bien qu'il est beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteux, naturellement, mais coûteux sur tous les points, de promulguer une loi sur le mariage gay que de faire reculer le chômage, bien sûr. Mais ces courants, qui sont surtout d'extrême gauche, je dis bien, mais il y a un certain nombre de courants, finalement, qui sont un peu plus diversifiés que ça. Ces courants craignent aussi, à juste titre, je crois, que l'ampleur des réformes sociétales ne développe finalement l'individualisme au détriment de tout ce qui peut faire société. Et c'est pas faux, naturellement. Ils se rendent parfaitement compte, et ils le disent, il suffit de regarder leurs textes, que finalement, ce sont les élites cosmopolites, beaucoup, qui réclame l'émancipation des mœurs. Je puis vous dire d'expérience qu'à Belley dans l'Ain, il n'y a pas de comité de revendication pour le mariage gay. Et vous voyez très bien ce que je veux dire. Autrement dit, Ce sont les groupes qui peuvent supporter l'individualisme à moindre frais qui réclament ces réformes. Et ceci, évidemment, n'est pas bon pour le lien social. Donc vous avez un certain nombre de groupes qui ont parfaitement bien vu cela, quelles que soient par ailleurs leurs idées propres sur les questions du mariage gay ou autre chose, parce qu'il y a, il n'y a pas que cela, évidemment, dans les réformes sociétales, même si on en parle en ce moment. Alors la question qui se pose aussi d'un point de vue strictement politique, c'est pourquoi est-ce que la gauche a abandonné le terrain social, qui était un terrain d'émancipation dans lequel elle avait fait sa renommée et son succès, et où elle avait trouvé un électorat nombreux et finalement difficile à remettre en cause, parce que il est difficile de délégitimer le combat en faveur des plus faibles. Alors je propose deux réponses possibles. Ils sont différentes et même inverses. La première serait que le combat de l'émancipation ouvrière a été gagné. C'est-à-dire que là où ce combat a été mené, pendant tout le XXe siècle, on peut dire les choses à peu près comme ça, le prolétariat a littéralement disparu pour être remplacé par une petite bourgeoisie, nantie de toutes les conquêtes espérées. Et donc il fallait poursuivre un autre combat dans la lignée de l'idéologie émancipatrice. Il y a une deuxième réponse possible. La deuxième réponse possible, c'est que ce combat a été perdu. C'est-à-dire que le prolétaire a été remplacé par l'exclu. La démocratie économique est toujours aussi incomplète. L'excès de sécurité et le développement des corporatismes ont créé des sociétés de chômage. Et par conséquent, il faut placer le combat sur un autre terrain si on veut continuer à avancer. Au fond, et je terminerai là pour la question politique, on en revient au débat crucial de la gauche, qui est déjà présent à l'époque de Lénine. Est-ce que la gauche doit servir les revendications du peuple, qui émanent du peuple, ou bien est-ce qu'elle doit servir le bien du peuple, décrit par elle-même, j'entends par la gauche, pas par le peuple, s'il le faut, contre le peuple. On se souvient que Lénine avait opté pour la deuxième réponse, et c'est ainsi qu'avait été engendré le totalitarisme. Aujourd'hui, la prise en charge par la gauche des questions sociétales équivaut encore à une volonté de faire le bien du peuple contre son gré. En ce sens, ce qu'on peut appeler les bobos sont l'avant-garde et le fer de lance de la révolution des mœurs. Naturellement, on pourrait développer cela, mais je ne le ferai pas parce que j'ai l'impression qu'il y a, d'autres points plus, qui me paraissent plus importants. Je crois que l'invention du sociétal a une signification plus profonde que cela et plus intéressante. Elle traduit la prééminence des questions privées au détriment des questions publiques ou communes. Et cet aspect dépasse les questions politiques proprement dites et raconte, je dirais, une évolution en termes de civilisation. Donc je passe à la deuxième partie. Le social appartient au commun. Et le social tisse les caractéristiques de la vie ensemble. Le sociétal traduit un glissement vers les soucis domestiques, les soucis privés. On peut interpréter cela comme un passage de la grande histoire, je mets un grand H, à la petite histoire, je mets un petit H. Dans le premier volume de son Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, Gibbon avait parlé du déclin du courage dans l'Empire romain florissant, à travers une description de la mollesse qui accompagne les périodes de confort et de gloire assurée. Vous avez vu ces temps-ci, il est devenu possible de parler de décadence. Le mot décadence est tout d'un coup en train de sortir de l'épais brouillard où sont calfeutrés tous les mots qu'on n'a pas le droit de prononcer. Donc c'est intéressant, on peut parler de Gibbon. Ce constat est bien connu, bien sûr. C'est un constat, le constat que développe Gibbon est passé, si on veut, dans l'expression comme « les délices de Capoue », vous voyez, des choses comme ça. Mais Gibbon ajoute des précisions intéressantes. Il dit que dans cette situation où la monarchie impériale romaine fonctionnait, pour ainsi dire, toute seule, où les provinces lui fournissaient des soldats, où les gouvernements provinciaux n'avaient besoin de personne, c'est pas une période très longue, mais ça a existé, eh bien, les citoyens de l'Empire n'avaient plus à se soucier que d'eux-mêmes. Et donc, ils cessèrent de développer les vertus publiques, celles qui concernent la défense de la patrie, la défense de la liberté commune, et ils s'enfoncèrent insensiblement, dit Gibbon, je cite, « dans la molle indifférence de la vie privée ». La molle indifférence de la vie privée. Hegel, qui est un lecteur de Gibbon, et je cite « des manières de traiter scientifiquement du droit naturel » traduites par notre président, C'est bien ça ? Oui. Hegel, qui est un lecteur de Gibbon, cite ce passage et à son tour, il analyse ce type de situation dans ce livre sur le droit naturel. Celui, dit-il, qui se trouve durablement en sécurité par une paix et un confort durable, va dès lors se préoccuper entièrement des questions secondaires et notamment des procédures juridiques concernant la propriété et les contrats particuliers. Et il va se livrer à cela dans les détails. Cet individu qui est, pour ainsi dire, délogé de l'universel, s'enfonce sans même le savoir, comme disait Gibbon, dit Hegel, qui le reprend, dans la molle indifférence de la vie privée. Eh bien, ce surinvestissement du domaine privé est la conséquence d'un affaissement des vertus publiques par déclin de l'idéal commun et de la volonté commune. Si on reprend d'autres auteurs, je vais en citer deux ou trois autres, on retrouve naturellement cela chez Tocqueville, qui décidément, comme on le sait, a pratiquement vu tout ce qui était important. Tocqueville y voyait une expression du processus démocratique. Je cite le passage, « Ne lui parlez pas des intérêts et des droits du genre humain. Cette petite entreprise domestique absorbe pour le moment toutes ses pensées et lui fait souhaiter de remettre les agitations publiques à un autre temps. » Cela ne l'empêche pas seulement de faire des révolutions, mais le détourne de les vouloir. Les violentes passions politiques ont peu de prise sur des hommes qui ont ainsi attaché toute leur âme à la poursuite de leur bien-être. L'ardeur qu'ils mettent aux petites affaires les calme sur les grandes. Cette phrase est restée célèbre. L'ardeur qu'ils mettent aux petites affaires les calme sur les grandes. Nous sommes tout à fait dans la même idée ici que dans l'idée qui était décrite par Gibbon et ensuite par Hegel. Nous retrouvons aussi cela chez Hannah Arendt, qui avait observé ce phénomène dans la modernité occidentale et qui développait autour de ça des images assez amusantes. Elle disait que le déclin des grandes batailles et des grands idéaux, donc nous sommes après la Seconde Guerre, incite les citoyens à se réfugier dans la passion pour les petites choses. Et là, je cite, entre leurs quatre murs, entre le lit et l'armoire, le fauteuil et la table, le chien, le chat et le pot de fleurs. Condition de l'homme moderne. Petites choses qui suffisent à leur bonheur, et plus encore, et c'est très important, qui suscitent le même attrait et le même enthousiasme inspiré auparavant par les grands idéaux. C'est ça qui est très intéressant. Elle conclut en disant « La grandeur a partout fait place au charme ». La différence entre la grandeur et le charme. Et elle ajoute encore, c'est ce qu'on appelle en France le petit bonheur. Eh oui, c'est un petit bonheur que j'avais rencontré, etc. C'est une chanson que nous chantions aux enfants. Le petit bonheur français. La différence entre la grandeur et le charme, évidemment, saute aux yeux. Ce qui est charmant, c'est sans conséquence. C'est à goûter dans l'instant. Ça n'a pas de, pour ainsi dire, pas de signification. C'est ce livre qui s'appelle « La première gorgée de bière », qui est paru peut-être il y a une dizaine d'années, tellement important pour montrer l'attachement que nous avons pour ces petites choses, qui évidemment ne sont pas sans importance, hein, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que la première gorgée de bière c'était sans importance, ça n'empêche que quand toute la vie se résume à ça, on peut peut-être se poser quelques questions. Et ce livre, « La première gorgée de bière », a eu un immense crédit dans des existences qui sont finalement avides de charme, beaucoup plus que de grandeur. Et il est assez significatif de voir que les plus grandes passions se déchaînent aujourd'hui autour de questions dites sociétales, qui concernent le domaine du privé, même si naturellement ces questions ne sont pas dénuées d'importance, je serai la dernière à le penser, et naturellement ces questions ont un impact déterminant sur la forme future de la société, mais ceci n'enlève pas l'importance de cela. Dans les sociétés occidentales contemporaines, l'attrait pour la vie privée va de pair avec un désintérêt pour l'historicité et, si vous préférez, un mépris de la grande histoire. Il suffit d'observer nos sociétés pour apercevoir à quel point notre production, nos productions littéraires et cinématographiques font une place immense et presque monopolistique à ce que justement Hannah Arendt appelait les petites choses. Regardez nos films. Amusez-vous à regarder nos films. Ils ne racontent pratiquement plus que des minuscules aventures de la vie quotidienne. Et finalement ne mettent en jeu que des intrigues psychologiques. J'ouvre juste le net, comme ça, il y a 3 jours, pour m'en convaincre. Quelques titres. Elle l'adore. maintenant ou jamais, brève de comptoir, avant d'aller dormir. Et ça peut être une autre fois, le père et le fils, n'importe quoi, enfin des choses extrêmement simples qui racontent des éléments de la vie quotidienne. Naturellement, je n'ai pas de mépris pour la vie quotidienne. Seulement, on a l'impression, et je vais y revenir, que cela se résume à cela. Ce phénomène, d'ailleurs, c'est intéressant, a été remarqué à une autre époque. À une autre époque récente, j'entends. Je ne reviens pas à l'Empire romain. Et analysé en République tchèque, juste avant la chute du mur, c'est-à-dire au moment où le régime était moins oppressif. Havel, dans ses essais politiques, décrit une société qu'il appelle post-totalitaire, c'est-à-dire qu'il estime qu'ils ne sont plus dans le totalitarisme, c'est avant la chute du mur, hein, dans les années 80. Autrement dit, c'est un monde, dit-il, c'est un monde sans histoire. C'est un monde sans événements marquants, entièrement rythmé par les habitudes et les soucis privés. Il ne se passe rien. Les manifestations de la vie privée, comme les mariages ou les enterrements. Et Havel explique bien que la production cinématographique, donc à cette époque et à cet endroit, raconte des histoires minuscules. Il conclut par cette phrase, à la fois symbolique et assassine, la calligraphie a remplacé le dessin. Vous voyez ce que ça peut signifier quand on a des films qui s'appellent « Elle l'adore », etc. C'est justement la calligraphie qui remplace le dessin. C'est-à-dire que la signification est réduite et elle est purement livrée au détail. La société post-totalitaire, dit-il, est exemptée, bien sûr, de la terreur, mais elle demeure en situation d'asservissement spirituel, politique et moral, au sein même de l'ambiance de la consommation qui commence. Autrement dit, nous avons là, la société contemporaine occidentale est une sœur jumelle de cette société que décrivait Havel. On pourrait évidemment développer, mais je ne le ferai pas maintenant. Les sociétés occidentales vivent hors l'histoire parce qu'elles n'en supportent plus. Je crois que nous essayons, en tout cas nous faisons tout pour vivre hors l'histoire, parce que nous ne supportons plus de l'histoire l'explosion de vie, de désordre, le risque, la violence éventuelle, la grandeur qui fait mal, l'échec des perdants, et tout ce qui bouscule, tout ce qui terrifie, tout ce qui inégalise ou angoisse. Finalement, si on veut reprendre les termes de Peggy, nous préférons largement les périodes aux époques, les périodes calmes et lisses. Nous voulons des petites vies tranquilles, entre le lit et l'armoire, le chien, le chat, le pot de fleurs, etc. Et comme il faut bien pour la récréation se raconter les uns aux autres quelques odyssées, eh bien nous produisons des films qui retracent les aventures minuscules de la vie privée. Havel racontait que chez eux, les événements publics n'étaient que des journées du souvenir, des commémorations, des défilés de la mémoire. Eh bien, aujourd'hui, il en va de même. Les événements sont seulement des commémorations d'événements, car il n'y a plus d'événements. Tout se passe comme s'ils avaient été, pour ainsi dire, supprimés. Nous allons de la journée des morts du Maroc et de l'Algérie à la commémoration de la Grande Guerre, de la célébration des justes, avec un grand J bien sûr, à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Mais, et évidemment c'est là l'important, cette expulsion de l'histoire dans le passé exprime en même temps un soulagement et une victoire. Je pense que c'est tout à fait clair quand on en entend parler. C'est-à-dire que nous ne voudrions vraiment pas connaître encore des événements pareils à ceux que nous commémorons en permanence. Et d'ailleurs, nous en parlons pour bien montrer qu'ils sont passés et qu'ils ne reviendront plus. Ce qui est d'ailleurs le leitmotiv, et vous l'avez remarqué comme moi, de tous les discours qu'on tient à cette occasion sur les estrades. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Tout cela signifie que nous enterrons le passé historique. Naturellement, pas seulement au sens où le passé est passé, parce que bien entendu, le passé est passé, mais au sens tout à fait nouveau, celui-ci, où nous fêtons des victoires sur des passions humaines qui n'existeront plus jamais. Enfin, c'est au moins ce que nous croyons ou ce que nos dirigeants font semblant de croire, ou voudraient essayer de nous faire croire. Je ne sais pas, je vous laisse le jugement. Et lorsque se manifestent ici ou là dans le monde des événements analogues à ceux que nous avons vécus et dont nous fêtons la disparition définitive, par exemple en ce moment en Ukraine, ou bien alors lorsque la grande histoire nous touche à nouveau avec la déclaration de guerre de l'État islamique, alors Nous ne conférons pas à ses ennemis déclarés une responsabilité historique normale pour des agissements de ce genre. Mais il y a deux possibilités, qui d'ailleurs se rejoignent. D'une part, nous les considérons comme des satans, responsables d'un mal métaphysique, réincarné dans leur figure. Ce qui est une absurdité, parce que je vous signale au passage que la politique, contrairement à ce que nous croyons, ne consiste pas à lutter contre le mal avec un grand M, mais contre l'adversité, ce qui est évidemment tout à fait différent. Les politiques devraient lutter contre l'adversité. Actuellement, ils luttent contre le mal. Seulement, nous avons oublié que l'adversité existe. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, nous les considérons comme des demeurés de l'histoire. J'entends demeurer au sens plein du terme, ceux qui sont restés en arrière. Des gens qui sont restés en arrière, des sauvages qui n'ont pas encore compris la civilisation épargnée par ces violences et par ces fanatismes. Sous le totalitarisme, l'idéologie dominante étendait une chape de plomb sur la société qui est diverse, parce que la société elle est diverse par nature. La nature est diverse. Et l'idéologie dominante étouffait ainsi la société, essayait de l'empêcher d'utiliser son temps à des œuvres fantaisistes, donc dangereuses. Ainsi, l'État avait-il aussi nationalisé le temps, qui, comme tout ce qui est nationalisé, s'était mis à dépérir. Aujourd'hui, la pensée dominante convainc les citoyens que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire, ce qui est une autre manière de nationaliser le temps. Par exemple, qu'il n'y aura plus de guerre, qu'on peut les empêcher en les remplaçant par une police ou une justice internationale, etc. Je dirais que la fin de l'histoire selon Marx et la fin de l'histoire selon Fukuyama ne se différencient pas tellement. Nous n'osons plus parler évidemment de lendemain qui chante, parce que je pense que nous avons tous compris que ça ne marchait pas, mais nous sommes bien persuadés d'avoir atteint, en tout cas par rapport aux autres peuples, un sommet de perfection, et nous sommes persuadés que l'unique crime consisterait à vouloir redescendre à leur niveau. C'est tout à fait clair, et on pourrait faire des explications de textes très développées. C'est tout à fait clair quand on regarde quels mots nous employons pour parler de ces personnes qui se battent ici ou là dans le monde. Je vous ai cité deux cas, l'Ukraine et Daesh, mais bien sûr, on peut en citer d'autres. Il faut préciser ce qu'il y a d'illusoire dans cette tentative d'esquive et de sortie de l'histoire. Jamais les humains n'ont vécu sans la tragédie de leur existence. C'est une réalité objective, dont simplement ils n'ont dû prendre conscience probablement que peu à peu dans les premiers âges. C'est d'ailleurs probablement la prise de conscience du tragique de leurs conditions qui permet de les désigner dorénavant comme des humains et non plus comme des singes évolués. Si on accepte de dire, par exemple à la suite de Patochka, mais on pourrait trouver d'autres auteurs, qu'il y a eu des sociétés d'avant la grande histoire avec un grand H, hein, des sociétés préhistoriques au sens propre, alors à ce moment-là, l'entrée dans l'histoire signifie la sortie de soi, le questionnement, la mise en cause des certitudes naïves, autrement dit, la liberté en acte, qui suppose le risque, ce que Patochka appelait le règne de la nuit. Le règne du risque, le règne de la nuit. Et pourtant, avant l'histoire, il n'y avait pas pour autant des sociétés humaines sans problème. Il y avait des sociétés humaines qui étaient vouées à des problèmes humains, quotidiens, renouvelés à l'identique, avec le cycle des saisons, le cycle de la vie. Et il est assez facile de constater que celui qui essaye de se soustraire à la grande histoire ne sera pas pour autant sans souci. On pourrait citer quelques exemples. Les femmes qui ont été longtemps soustraites à la grande histoire ne devenaient pas pour autant des créatures célestes. Elles se préoccupaient abusivement de falbala ou d'autre chose sans importance. Ou encore, dans les monastères, les moines privés d'histoire terrestre ne sont pas pour autant forcément uniquement voués à des choses spirituelles, mais aussi, et souvent peut-être, je ne sais pas, préoccupés parfois abusivement par des soucis minuscules. En voulant sortir de la grande histoire pour garantir la paix et la vie tranquille, on ne va pas susciter une société idyllique. On va susciter, bien plutôt, une société de petits bourgeois tourmentés par des choses insignifiantes. Évidemment, les citoyens ne partent plus pour la guerre. Mais ils sont rongés par des problèmes domestiques. Et finalement, ils sont aussi inquiets que s'ils partaient pour la guerre. Et peut-être même plus. La volonté de passer l'histoire par perte et profit, raconte une régression et en même temps l'errance de l'esprit et la vieillesse de nos sociétés. Et justement, je crois que le grand âge exprime ce moment où rien n'arrive plus, où il n'y a plus d'événements, où les événements se raréfient et où se réduisent, les événements se réduisent à des poussières d'événements. Et la vieillesse regrette les aventures et les péripéties de l'âge mûr. Les sociétés totalitaires, bien sûr, avaient conservé une jeunesse complètement mortifère, naturellement, mais une jeunesse concrétisée par cet enthousiasme dans la croyance et dans la foi en l'avenir radieux d'une humanité pleinement heureuse. Les sociétés contemporaines ont récusé les utopies mortifères et elles se sont repliées dans un temps sans histoire qui ressemble à la vieillesse d'un monde. Il faut dire que tout cela s'explique bien puisque nous avons payé un tribut beaucoup trop lourd à la grande histoire au siècle précédent. Ça explique sans doute notre secret désir de décréter en quelque sorte l'immobilité générale. Et pourtant, il est pathétique de relever le fait suivant que je soumets à votre réflexion. Des millions d'êtres humains sont morts pour la liberté, ont souffert en espérant par là ouvrir pour leurs enfants une époque sans guerre, une époque où les existences privées pourraient se déployer sans le souci d'avoir à tout perdre pour des grands idéaux exigeants. Et ces héros ont réussi. Ils ont conquis une paix très durable et très longue. Et les enfants et les descendants de leurs enfants, jusqu'à plusieurs générations, vivent dans des sociétés où l'on s'ennuie mortellement, où le sens de la vie semble s'être évanoui avec le danger, et où on s'étripe finalement pour le statut du beau-parent. Voilà l'affaire. Alors, devant ce glissement du social au sociétal, la lecture politique et la lecture philosophique, je crois, se répondent et finalement se complètent, parce qu'elles puisent l'une et l'autre aux mêmes sources. Les projets grandioses de recréation du monde humain nous ont tellement déçus que nous nous replions dans l'aménagement de la vie privée, ce qui peut se comprendre. Nous ne pourrons pas produire un bonheur global, bon, évidemment, mais au moins nous pourrons améliorer les relations quotidiennes. Le remplacement de la politique par la domestique ne représente qu'une expression du remplacement de la politique par l'économique, entendu au sens étymologique de l'oikonomos, gouvernement de la maison chez les Grecs. Pour avoir trop demandé à la politique et à l'histoire, eh bien, on les prie pour un moment de disparaître afin de cesser de nuire. Pour un moment, faut-il espérer. Les sociétés centre-européennes annonçaient en 1989 qu'elles allaient rentrer dans l'histoire. Eh bien, nous aussi, nous sommes en train de manquer à l'histoire. Et je crois que c'est ça que traduit l'invasion du sociétal. Ce faisant, nous ne vivons plus véritablement dans la réalité, en ce sens que le tragique commun est évacué de la conscience, alors même qu'il continue évidemment d'exister en dehors de nous. Rentrer dans l'histoire, sans doute, nous ferait mal, mais en même temps, peut-être nous restituerait une figure plus humaine, au sens où cela nous imposerait d'abandonner les illusions décrites par Trotsky, qui sont toujours tellement vivaces, nous sommes toujours et encore dans littérature et révolution, nous sommes toujours et encore dans le projet de la maison définitive, etc. Les sujets des pays totalitaires, les citoyens des sociétés postmodernes, vivent dans une situation de post-histoire parce qu'ils pensent les uns et les autres avoir aboli ou être en passe d'abolir l'histoire avec ses aléas et ses tragédies. Alors, je vais terminer. Vouloir remplacer le social par le sociétal, c'est s'imaginer que seul compte la vie domestique, au sens de la domos, et finalement, c'est récuser d'une manière ou d'une autre la vie politique. Et cependant, il s'avère que si nous reléguons la grande histoire pour ne nous intéresser qu'à la petite, eh bien la grande histoire va nous rattraper d'elle-même. Comme cet ennemi dont parlait mon maître Julien Freund. Il disait « si nous n'en voulons pas, c'est lui qui va nous choisir ». Les actes de guerre de l'État islamique sont bien là pour le montrer. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont nous aurions besoin, c'est de prendre la réalité au sérieux. Enfin, sur le plan intérieur, un peuple qui abandonne la politique pour s'intéresser exclusivement aux domestiques finit par échapper à la politique au sens du gouvernement grec, c'est-à-dire au fond à la démocratie. Préoccupé de sa vie privée, il va laisser entièrement la vie publique à l'État et se donner en fin de compte quelque chose comme un despote qui pourrait prendre toutes sortes de noms, par exemple un technocrate, figure contemporaine de l'autocratie. Au fond, le glissement dont nous parlons traduit un aspect de cette tendance contemporaine, le délaissement de la chose commune. C'est une interprétation que je soumets à votre réflexion. Merci beaucoup.